Et on vous disait il y a quelques instants des créneaux non pourvus au Stade de France. Et bah, faut-il élargir la vaccination anti-Covid à tous? Cathy Botin qui est avec nous, première adjointe de la mairie de Saint-Denis, en charge de la santé. Bienvenue et bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cathy Botin. Alors oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors au Vélodrome à Marseille hier comme au Stade de France, alors que certains n'arrivent pas à se faire vacciner, visiblement il y a des créneaux libres qui se déclenchent comme ça à la dernière minute. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des refus, c'est ça?
Ben oui, effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés à remplir, en tout cas en avance. C'est ce qui n'était pas le cas à l'ouverture du Stade de France le 6 avril, ou au moins sur l'ensemble des créneaux qui étaient mis sur la plateforme numérique, ils partaient très vite. C'est moins le cas actuellement. Il faut quand même retenir que c'est pas parce qu'il reste des créneaux disponibles que ça veut dire que les doses sont perdues ou jetées.
Non, ouais.
Bien évidemment, on fait appel à différentes techniques pour remplir, mais c'est ça qui devient un petit peu.
Ben, il y en a des plus
difficile.
Jeunes. Il y a des plus jeunes qui viennent et qui se font vacciner, c'est ce qui s'est passé hier. Hein. On l'a vu, on l'a entendu. Quoi.
Bon, voilà, mais, hein. Nous après au Stade de France, on est quand même responsable, on n'est pas du tout comme sur la Côte d'Azur où ils ont décidé un petit peu de faire leurs propres critères. On fait quand même appel aux listes d'attente le plus proche possible des cibles. Et donc oui, hier il y avait des personnes plus jeunes au Stade de France qui étaient vaccinées, mais qui étaient quand même toutefois tout au-dessus de 45 ans.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais. Tout au-dessus de 45 ans, j'en ai entendu certains qui avaient moins de 45 ans. Mais enfin bon, et on leur a dit, bon bah non, mais il n'y a pas de problème, de toute manière, vous pouvez vous faire vacciner, puisque quoi qu'il en soit, il reste des doses. Cathy Botin, pourquoi aussi, selon vous, de quel vaccin s'agit-il au Stade de France? Est-ce que c'est du Pfizer, du Moderna, de l'AstraZeneca?
Alors, comme dans la plupart des grands centres de vaccination, c'est des vaccins ARN messagers, donc soit Pfizer, ouais. Soit Moderna. La plupart du temps, Pfizer, parce que c'est celui qui est le plus disponible en France, mais c'est vraiment les deux mêmes vaccins. Et d'ailleurs, nous, les jours où il y a également du Moderna, il y a une grosse pédagogie qui est faite pour dire que ce sont les deux mêmes technologies, que c'est les deux mêmes efficacités. Et généralement, on n'a pas de problème du tout pour remplir aussi les créneaux Moderna.
Ouais.
Donc, pour nous, c'est vraiment une question de cible. Et pour la Seine-Saint-Denis, en tout cas, avec la jeunesse du département, la jeunesse des professionnels aussi qui sont là, on a bien vu quand il y a eu cette petite ouverture à 55 ans pour certaines
ouais.
professions, ça ne veut strictement rien dire pour la Seine-Saint-Denis. Les profs en Seine-Saint-Denis n'ont pas plus de 55 ans.
Ouais. Donc, est-ce qu'il faudrait penser vraiment à élargir la vaccination à tous, ou en tout cas descendre la limite d'âge?
Oui, c'est ce qu'on dit. Le président Stéphane Troussel du département le dit aussi. Le maire Mathieu Hanotin de Saint-Denis, ma ville, bien sûr, on le dit déjà depuis plus d'un mois, parce qu'il y avait quand même 3 semaines de fermeture, notamment des écoles et des crèches, où pour nous, c'était le bon
moment
pour élargir. Peut-être pas à tous les plus de 18 ans. On comprend tout à fait l'approche par âge. Mais en tout cas, ce qui est annoncé par le gouvernement, à savoir mi-mai, les 50 ans, ça ne veut strictement rien dire pour la Seine-Saint-Denis, parce qu'on les fait déjà, de fait, on les fait déjà les 50 ans. Et donc, on l'a bien vu, quand au 16 avril, il y a eu l'ouverture aux plus de 60 ans, il n'y a pas eu du tout d'appel d'air en Seine-Saint-Denis, alors qu'on aurait pu s'y attendre. Nous, un petit peu l'aberration, c'est qu'on se dit, ce n'est pas parce qu'on ouvre plus largement qu'on ne va pas continuer à aller chercher les publics prioritaires et les plus fragiles.
Ouais.
Il n'y a pas d'arrêt pour les classes d'âge, entre guillemets, qui auraient passé leur tour et qui, on leur dirait, maintenant, les 75 ans, c'est fini, place aux jeunes. C'est pas du tout ça, la logique. Il y aura toujours des créneaux disponibles pour les plus fragiles et on continue à aller les chercher. Donc, ouvrons largement et continuons à aller chercher les publics fragiles.
Est-ce qu'il y a des très jeunes qui viennent frapper à la porte, Cathy Botin? Parce que hier, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, les jeunes veulent le vaccin en top tendance. Est-ce que vous avez des jeunes? Alors, ce sont plutôt des étudiants ou des gens qui ont 25-30 ans?
Bien sûr, chaque soir, et c'est le cas dans tous les centres de vaccination, parce que même si on fait appel aux listes d'attente, quand on arrive vraiment à 19h30, 20h au dernier moment, c'est très difficile d'avoir une gestion sur 3000 doses par jour pile qui tombent pile. Donc oui, en fonction des jours, il y a 15, 20, parfois un petit peu plus personnes qui sont spontanément devant le Stade de France, qui sont
appelés. Ils font la queue.
Ouais. Et nous, on tient quand même à le dire, c'est qu'on appelle toujours dans cette queue spontanée. C'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. maladie, c'est quand même toujours un appel par âge.
Oui.
Et donc, hier soir, typiquement, dans la dernière phase et les dernières minutes, c'est uniquement les plus de 50 ans qui ont été appelés, donc beaucoup de déçus de plus jeunes qui étaient devant. Ouais. C'est positif aussi, ça veut dire qu'il y a un engouement aussi des plus jeunes pour se faire vacciner.
Ouais. Merci beaucoup, Cathy Bontinck. Je vais envoyer Cécile Ménibus, hein, qui a 27 ans, en fait, aujourd'hui,
oui,
je crois, c'est
hein,
ça. Ouais, 28, peut-être, déjà.
On
oui.
sait plus.
Bon,
sait plus.
Pour se faire vacciner. Merci, en tout
pas,
cas, Cathy Bontinck, première adjointe à la mairie de Saint-Denis, en charge donc de la santé.
Bonne journée. Et les apiculteurs confrontés au vol massif de leurs ruches partout en France. Franck Alertru est avec nous, apiculteur en Vendée, et président du Syndicat national d'apiculture et de l'Association européenne des apiculteurs professionnels. Bonjour.
Bonjour, Franck Alertru.
Bonjour à vous.
Mais qu'est-ce qui se passe? On vole en fait des ruches, c'est ça? Et plus cette année d'ailleurs que par le passé, où ça se faisait déjà un tout petit peu?
Alors, ce phénomène n'est pas un phénomène complètement nouveau. Il a démarré il y a une année avec les disparitions massives qui étaient provoquées par les pesticides. Certains trouvaient plus facile d'aller repeupler leur rucher en allant chez le voisin, bien évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre profession a décidé de déclarer systématiquement ces vols. Avec un événement supplémentaire, c'est que les vols ne sont plus des vols de quelques ruches, mais parfois des vols de 20, 30, 40, 50 ruches dans un même rucher. Donc un travail fait par, ce sont des hypothèses, par des professionnels, bien évidemment. On ne déplace pas des ruches comme des caisses de savonnette, donc il faut être connaisseur. Mmh. Et ensuite, quel est le réseau qui est utilisé? C'est la question. Réseau pour revendre ou réseau tout simplement pour réemployer chez soi. Donc, on a demandé à tous les apiculteurs de déclarer systématiquement ces vols, petits, moyens ou importants, et ce phénomène est en train de se déplacer en Europe.
Ouais, mais est-ce que vous avez quand même une idée de... Parce que quand on vient voler 40, 50 ruches, c'est pas pour les mettre dans son jardin, quand même.
C'est ce qui nous fait...
Oui.
Tout à fait, c'est ce qui nous fait émettre plusieurs hypothèses. Ces hypothèses de réseau, peut-être, de réseau de revendeurs d'essaims, et ou tout simplement d'apiculteurs qui ont subi de très grosses pertes et qui vont repeupler de cette façon-là.
Ouais.
Donc, que soit le cas de figure, c'est lamentable.
Ouais.
On doit nécessairement réagir.
Ouais.
Les apiculteurs étaient relativement discrets, c'est une profession de personnes discrètes, et il y avait presque un peu une forme de gêne d'annoncer de s'être fait voler des ruches. Aujourd'hui, on a décidé de lever le rideau là-dessus, et de déclarer, de travailler en partenariat avec la gendarmerie. Et si le phénomène s'étend, nous allons saisir Interpol.
Ouais.
Car là, il y a certainement un problème de réseau international, et on va tout mettre en œuvre pour les détecter. Alors, comment faire?
Ouais.
Parce que c'est très difficile, elles n'ont pas de plaque d'immatriculation. Donc, nous allons demander à nos adhérents d'identifier par pyrogravure le bois, le marquage, identifier toutes les ruches.
Mmh.
Nous allons utiliser des caméras thermiques qui sont utilisées par les chasseurs ou les observateurs de la nature, qui seront positionnés dans des lieux stratégiques. Nous avons déjà commencé à en poser, et nous avons déjà deux signalements. Dans le Grand Est, les gendarmes travaillent sur ces dossiers.
Ouais.
Nous allons aussi mettre des traceurs GPS à l'intérieur des ruches. Pas toutes, évidemment, parce que ça a un coût, mais nous allons le faire de façon aléatoire. Nous avons fait des tests en zone de montagne, en zone de plaine. Ça fonctionne très bien.
Est-ce qu'on a déjà retrouvé quand même certaines ruches à l'international? Parce que vous suspectez un réseau international, probablement. Est-ce qu'il y a déjà eu quand même quelques traces, quelques pistes?
Alors, on en est au stade de l'hypothèse. On se dit pourquoi l'international? Pour la simple raison, c'est qu'il y a souvent des vols qui sont réalisés sur des axes de grand passage ou de berceaux est-ouest de l'Europe, ou en limite frontalier, d'accord? C'est pour ça, ce sont des hypothèses. La deuxième raison, c'est que ces ruches, on ne les retrouve pas en France.
Oui.
Donc, elles sont peut-être parties ailleurs. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des ruches qui sont fabriquées par milliers, par des fabricants de ruches, elles se ressemblent toutes.
Oui.
Donc, il faut les identifier.
Oui.
Maintenant, chaque apiculteur a un peu sa façon à lui de mettre tel ou tel accessoire, et on peut les identifier de cette façon. Mais c'est trop délicat.
Oui.
On va le faire d'une autre manière. Par pyrogravure, le bois va être marqué à feu et pénétré de cette façon dans le cœur du bois, et ce sera impossible à retirer.
Ouais.
Et chaque apiculteur marquera, identifiera ses ruches de cette façon. Ensuite, il y a tout l'arsenal dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ouais. Bon, bah, écoutez, Franck Alétru, je pense que ça valait le coup de vous entendre ce matin pour lancer cet appel, quoi, avec ces vols de ruches un peu partout et qui augmentent beaucoup, vous l'avez dit, en France. Et donc, police et gendarmerie sont mobilisés. Merci d'avoir réagi et poussé un peu aussi ce coup de gueule, en quelque sorte, ce matin sur Sud Radio.
Et on va rester un peu sur ce thème de la sécurité de façon plus générale avec Alexis Poulain dans l'édito politique. Et puis, on retrouvera aux alentours de 7h40, Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions 0826 300 300. À tout à l'heure.